France Inter.
Salut la Terre au Carré, c'est Daniel, le psychomigrateur. L'été dernier, j'avais laissé un message sur le répondeur. J'annonçais mon départ du fin fond de la Suisse pour rejoindre Gibraltar, à vélo, pour suivre la migration d'une cigogne bien connue qui s'appelle Max. Bon ben voilà, on y est arrivé. Et le film de cette aventure humaine est sorti au cinéma le 29 mars. Super succès, 300 personnes dans la salle, c'était complet. On est fou de joie avec le réalisateur, Léon Thiron, parce qu'on a eu des super retours du public. Donc merci la Terre au Carré d'avoir passé mon message il y a plus d'un an. Car il y a même un auditeur qui vous a écouté à l'époque qui s'est retrouvé dans le film. C'est magique, non? Allez, ben nous on continue, on lâche rien avec ce film autoproduit et non distribué. Mais nous on va le faire connaître, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, le ciné d'Amberieu en Bugey dans l'Ain a programmé une séance le 12 avril pour ceux qui n'étaient pas là, donc les Indinoises et les Indinois. Si vous écoutez ce message, venez à Amberieu le 12 avril. Allez, bye bye la Terre au Carré.
Annie d'Avignon, ce message à la suite de la petite virgule de Elisa hier sur les smartphones. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Le problème est éternel. C'est celui qu'avait posé déjà Ésope au moment de l'Antiquité. Ce n'est pas l'objet qui est dangereux, qui coupe, qui isole, mais l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est beaucoup plus là-dessus qu'il faut travailler. Moi, le smartphone m'aide à de nombreuses reprises, y compris à communiquer, et ne remplace pas ma communication auprès d'autres. Donc, l'utilisation de tout notre environnement, c'est ça qui fait l'intérêt et de la réflexion et de ces objets. Voilà. Et non pas les fuir. J'ai fini ma petite leçon de morale. Et continuez parce qu'on a besoin vraiment d'émissions comme vous et pour la décroissance aussi. Merci, au revoir.
Salut la Terre au Carré, salut Camille et Mathieu, donc ici Anne Mizroche et je voudrais vous partager le plaisir que j'ai de chanter dans un spectacle qui n'est pas comme les autres. Ça s'appelle L'hiver sera chaud et ça a pour thème le dérèglement climatique. Et pas comme les autres parce qu'on a été 30 autrices et auteurs à le créer. On est 7 artistes sur scène. Ça mélange chanson, théâtre, lecture, interaction avec le public et beaucoup d'énergie. On va le jouer partout en France et ça commence dès cette fin de semaine en Eure-et-Loire. Si vous tapez L'hiver sera chaud, vous aurez toutes les infos sur ce spectacle qui parle d'un sujet grave mais tout en faisant du bien. Voilà. À très bientôt la Terre au Carré et bravo pour vos émissions.
Oui, bonjour, c'est Marie-Vonne de Bretagne. Hier soir, je suis allée au cinéma voir Nous serons toujours là, Plogoff 1980. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film qui relate la lutte du petit village de Plogoff il y a 40 ans, à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. On y vit ou on y revit, juste cette résistance à l'installation d'une centrale nucléaire au moment de l'enquête publique. On y voit des habitants déterminés, une quinzaine seulement parfois, face à des CRS bien plus nombreux. Le titre de ce film, Nous serons toujours là, Plogoff 1980, est particulièrement actuel. Oui, nous serons toujours là. Nous devons être toujours là. Être vigilants pour les luttes actuelles, Sainte-Soline et les autres, et pour les luttes à venir, mines de lithium, etc. Oui, nous serons toujours là pour défendre la vie.
Merci Marie-Yvonne, gardienne de la nature. Continuez en tout cas à vous mobiliser. Appelez-nous pour le partager sur ce répondeur au 01 56 40 45 45. En août dernier, une étude publiée dans la revue PNAS révélait un chiffre stupéfiant. Elle affirmait en effet que les sols de notre planète abriteraient 59% de la vie, ce qui en ferait l'habitat le plus riche en biodiversité sur Terre. Avec nos invités, nous allons vous raconter cette vie justement dans les sols par le prisme des communautés de champignons, car ce que nous avons sous nos pieds est un aspect largement sous-estimé malgré son importance vitale, non seulement comme support de l'agriculture et des écosystèmes forestiers, mais aussi comme une réserve incroyable de diversité. Les champignons représentent une énorme diversité justement dans le sol. C'est l'occasion de s'intéresser à leurs fonctions les plus importantes avec nos invités Claire Chenu et Lionel Rangard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes tous les deux directeurs de recherche à INRAE. Claire Chenu, vous êtes aussi professeur de sciences du sol à AgroParisTech. Lionel Rangard, vous avez vous participé à cet atlas français des champignons du sol qui sort cette semaine aux éditions Biotope et aux éditions du Muséum National d'Histoire Naturelle. On va donc se retrouver dans un instant pour découvrir ce peuple fongique, leur rôle et la façon de protéger ces champignons. On attend vos questions bien sûr dès maintenant sur la page de la Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au verre à 14h30.
Ouais, je reste dans le thème puisque l'UICN a sorti ce matin sa toute première liste rouge des champignons en France et eux aussi souffrent de nos activités en particulier.
Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré réalisée par Valérie Ayesta. Et de dossier préparé par Lucie Sarfati. Maxime Goudard est avec nous à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Ce que nous voyons en surface, c'est quelques bouts de plantes et quelques maigres bestioles qui courent là-dedans. Mais les écosystèmes terrestres, la biodiversité, elle est sous le sol. Il y a juste un problème avec le sol, c'est que d'une part, il n'est pas transparent. Et puis la vie dans le sol, elle est aussi largement microscopique. La plupart des animaux qui font la diversité du sol sont des animaux qui sont de moins d'un millimètre. Et puis il y a tout ce foisonnement microbien de champignons, de bactéries, d'amibes, de ciliés, de tout un tas de trucs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc il est à la fois pas transparent le sol et la vie qui est dedans est trop petite et ça nous empêche de réaliser que la biodiversité est là.
Voilà le professeur Marc-André Sellos, biologiste en octobre dernier dans une vidéo de Vers de Terre Production, les champignons du sol. Donc on va vous proposer avec nos invités Claire Chenu et Lionel Rangard de regarder de près cette terre que nous foulons sans trop nous douter de la richesse justement qu'elle abrite. Je le disais dans le sommaire, donc cette étude publiée en août dernier affirme donc que le sol serait l'habitat le plus riche en biodiversité, 59% de la vie. Lionel Rangard, Claire Chenu, est-ce que ce chiffre vous a surpris vous-même en tant que scientifique, Claire Chenu ?
Je connaissais le chiffre antérieur qui était de 25%.
Ouais.
Donc qu'il soit actualisé, je savais qu'un jour il serait réévalué à la hausse.
Sacrément,
je dois dire qu'au-dessus de 50%, j'ai quand même été surprise.
Presque 60%, donc
c'est énorme.
Lionel
énorme.
Rangard, ouais,
c'est... oui. Deux tiers de la biodiversité presque. C'est vrai qu'on disait que le sol était la troisième frontière biotique, oui. Derrière les canopées de forêts primaires, les fosses océaniques. Je pense qu'on peut dire que c'est la première frontière biotique,
oui.
C'est-à-dire un écosystème très biodiversifié et qui est encore en exploration.
Comment on a fait pour l'avancer d'ailleurs ce chiffre ? C'était quoi la méthode utilisée pour avoir un comparatif de toute la biomasse terrestre ?
C'est de la simulation en fait, c'est de la modélisation par rapport à des études justement de biologie moléculaire, de métagénomique que l'on est capable de faire sur le sol, c'est-à-dire d'extraire l'ADN et de regarder en fait le nombre de génomes que l'on peut avoir, même si on n'arrive pas à les identifier en termes d'espèces.
Ouais.
On parle de taxons généralement, surtout chez les micro-organismes. Et voilà, on donne un certain nombre de génomes et puis après on va comparer au génome des oiseaux, des animaux, à ce qu'il y a au-dessus, à ce qu'il y a dans l'eau. Et on fait aussi de la métagénomique, hein, d'ailleurs, pour voir des fois des animaux, des grands animaux, mais qu'on n'arrive pas à voir parce qu'ils sont cachés dans leurs habitats. Et c'est cette comparaison sur la base de modélisation et de biologie moléculaire qui nous permet de faire ces estimations.
Et donc, Claire Chenu, on va aussi comparer donc, avec les écosystèmes océaniques, par exemple, ou ceux des forêts, pour pouvoir justement dire que dans le sol, il y a autant de biodiversité, là.
Tout à fait, on a dit à un moment que c'était la canopée des forêts équatoriales qui était le plus grand réservoir de biodiversité, puis les océans, voilà, on recule. Mais voilà, ça fait un certain nombre d'années que les sols occupent la première place. Et derrière, voilà, une telle diversité d'organismes, ça veut dire une grande diversité de fonctions.
C'est ça, j'allais vous dire en creux, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement, cette étude ?
Une très grande diversité. Alors, pourquoi ? Enfin, une des conséquences, ce sont les fonctions qu'assurent les organismes vivants et qu'assurent les sols en tant que tels et les services qu'ils nous rendent. Et sinon, ce que dit cette diversité, mais c'est la diversité des sols. La diversité des sols qui dépend des climats, qui dépend de la roche, qui dépend de leur usage, de la manière dont l'homme les gère. Donc il y a une multitude d'habitats. Et dans un sol même, nous voyons, marchons dessus, effectivement, mais dans un sol, donc il y a plein de niches différentes, de petits habitats, de ports de différentes tailles, riches, pauvres, en ressources, ce qui permet qu'un même sol, dans un gramme de sol, que vous ayez déjà une diversité phénoménale. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dans un gramme de sol, alors, Lionel Rangard, par exemple ? Un gramme de sol,
un gramme, hein. Donc, moins que le petit
doigt,
déjà des milliards de bactéries en termes d'individus et des millions d'espèces. Bon, les bactéries, on en a parlé il y a déjà quelques années, on a fait un atlas, on va pas revenir dessus, parce qu'on est là pour parler des champignons. Chez les champignons, dans ce même gramme, on peut avoir des centaines de milliers, voire des millions d'individus de champignons. Alors, bien sûr, c'est pas les carpophores qu'on a l'habitude de voir.
Ah oui, non, on parle des microscopiques.
On parle vraiment des champignons microscopiques, sous forme de mycélium microscopique, et puis des milliers, des dizaines de milliers d'espèces aussi dans ce gramme de sol.
Voilà, donc dans une petite cuillère.
Ouais. Même pas.
Tout ça, même
gramme,
pas.
Alors ça dépend du sol aussi, parce que le sol plus ou moins pondéreux, mais même pas une petite cuillère.
Et ça dit aussi beaucoup de notre ignorance, alors au fond, sur ce milieu, qu'on est en train de découvrir, qu'on appréhende autrement. Vous sentez qu'il y a une autre approche aujourd'hui, Claire Chenu, sur les sols ?
Oui, je trouve qu'il y a une autre approche sur les sols et qu'on commence à entendre parler des sols de plus en plus. France dans les médias, dans le milieu des politiques, politiques publiques.
Le dossier agricole aussi fait qu'on en parle de plus en plus.
Le dossier agricole, les réglementations en cours de développement au niveau national comme européen. Donc on en parle de plus en plus, mais c'est aussi effectivement, alors ça c'est un gros effort je pense de la communauté scientifique et d'un certain nombre d'acteurs, de gestionnaires des sols pour faire connaître cette ressource dont vraiment nous dépendons.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que le sol c'est tout simplement la vie.
C'est là que poussent les plantes, donc qu'elles s'ancrent, qu'elles prennent de l'eau, des nutriments, donc c'est toute la production végétale, donc c'est aliments, fibres, bois, c'est là que l'eau arrive, l'eau des précipitations arrive, qu'elle s'infiltre, qu'elle est stockée, donc quantité, qualité, qualité purée, quantité, qualité de l'eau. Les organismes vivants biodégradent toute la matière organique qui arrive, et nos déchets organiques fournissent des nutriments. Donc voilà, en substitution de fertilisants minéraux.
Rien que ça. Et pourtant, on a une ignorance crasse sur le sujet.
Tout à fait.
Lionel Rangard, lorsque sortait donc cette étude en août dernier sur ce chiffre, 59% donc de la biodiversité se trouverait dans les sols, vous étiez en train de finaliser au fond cet atlas, vous, français des champignons du sol, qui sort donc cette semaine. C'est quoi l'idée de publier un atlas? Et d'abord, est-ce qu'il concerne toute la France? Parce que et je ne parle pas évidemment que de la France métropolitaine, mais aussi des territoires d'outre-mer.
Alors non, on n'a pas pris en considération les territoires d'outre-mer pour la simple et bonne raison qu'on a pour projet de faire un atlas sur les systèmes insulaires français, donc Corse et territoires d'outre-mer, parce qu'on est sur une écologie, c'est un atlas d'écologie, c'est pas un atlas de mycologie taxonomique. Ils ont une écologie très particulière, en fait, ces îles, c'est ce qu'on appelle l'écologie insulaire, avec déjà des climats très différents pour tout ce qui est drôme.
Alors, je ne parle pas d'île, mais je parle de la Guyane, par exemple, département français, dont on peut imaginer la richesse des sols, quand même, non ?
Tout à fait, mais alors la Guyane, on la considère un peu comme une île, parce qu'elle est entre un système côtier et un système de grande forêt, donc il y a une forme d'isolement. Donc, on fait un proxy, on va la mettre avec les drômes.
D'accord.
Voilà. Et puis aussi, il y a des climats qui sont des climats tropicaux, qui ont aussi des sols très particuliers en termes de formation, de teneur en aluminium, de teneur en fer, et donc une écologie un peu particulière.
D'accord.
Et on a pour velléité de faire cette fois bactéries et champignons ensemble, mais dans ces systèmes insulaires français.
Les Guyanaises et les Guyanais qui nous écoutent vont être contents de savoir qu'ils habitent sur une île. Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, mais en tout cas...
Une île d'un point de vue écologique.
Oui, c'est ça, ok. Donc l'Atlas, il concerne la France métropolitaine. Et donc c'est quoi? C'est aussi le résultat d'un inventaire des champignons du sol?
Alors c'est déjà le résultat de 20 ans de travail, donc ça c'est important de le dire, et avec des initiatives françaises qui sont assez uniques en Europe et même à travers le monde par rapport à un réseau d'observation des sols, qui au début était pour faire une observation, une description pédologique, et c'est vrai qu'avec ces fameux outils moléculaires dont on a parlé là, où on a pu revisiter la diversité des sols à l'échelle internationale, nous on les a appliqués sur les sols français pour regarder la diversité microbienne.
Donc vous êtes allé dans toutes les régions de la France métropolitaine
Alors il y avait des équipes de terrain qui sont allées dans toutes les régions, il y avait un point tous les 16 km sur une grille systématique, donc il y a des équipes de terrain et on les remercie au passage au niveau du réseau de mesure de la qualité des sols. Dans chaque département, on avait des équipes d'échantillonneurs gérées par l'INRA InfoSol à Orléans. Ils ont échantillonné les sols. Nous, on a eu le beau côté, c'est-à-dire on a récupéré les sols, on a appliqué nos outils de biologie moléculaire et on a caractérisé bactéries et champignons.
Et donc, ça vous donne une carte. Donc,
et ça nous donne des inventaires nationaux et des cartographies nationales.
De la diversité fongique, donc sur fongique. Le sol français.
Abondance, diversité, composition. Et la France est le premier pays à avoir ce genre de cartographie nationale.
Et alors, qu'est-ce que ça dit, en résumé, de ce territoire, de ce sol français, qu'il est très diversifié lui aussi?
Bien sûr, en résumé, ça dit que la France est un pays très biodiversifié, et d'ailleurs, si on regarde en termes d'hétérogénéité environnementale, de paysage, la France... On le sait, est considéré comme le troisième pays au monde qui a la plus grande diversité de paysages, derrière la Chine et le Brésil, indépendamment de la surface. Donc on voit, la France est un petit pays mais très diversifié. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on se promène en France, on passe d'un paysage à un autre très facilement.
Et c'est lié au sol
Et alors, c'est pas lié au sol, mais en fait, tout est lié, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus est lié en dessous et c'est interconnecté. Et cette grande diversité de paysages font qu'on a une grande diversité au niveau des organismes vivants du sol, dont les champignons.
Claire Chenu, c'est donc un document scientifique très important, mais aussi accessible au grand public, cet atlas. Mais en quoi il est important, justement? En quoi c'est important de connaître les champignons du sol français, par exemple?
Parce que les champignons font plein de choses dans les sols. D'abord, ça fait partie du réservoir de biodiversité des sols, et réservoir de biodiversité de nos écosystèmes et de notre territoire national, mais aussi parce qu'ils ont des rôles très, très divers. Aider à la croissance des plantes, les mycorhizes, par exemple, ils agrègent les particules de sol et donc facilitent l'infiltration de l'eau.
végétaux, ils jouent un rôle important dans le stockage de carbone dans les sols, apparemment plus que les bactéries. Mm-hmm. Donc voilà, ils jouent eux-mêmes, ils aussi contribuent à la dépollution des sols en dégradant certains polluants organiques. Encore multifonction, on trouve toujours sur le sol, c'est toujours du multi.
Les fameux services écosystémiques. Allez, on y revient dans un instant, le rôle de cette diversité microbienne, les menaces aussi qui pèsent sur elle, et puis comment la préserver. C'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré. C'était Tike Meidza sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà notre mycothèque. C'est ici que nous stockons nos souches de champignons. Ces filaments vont se répandre dans le sol et ils vont aller chercher le polluant. Et c'est au travers de ce réseau finalement qui se tisse dans le sol que le champignon va réussir à pomper les hydrocarbures, les dégrader et les utiliser comme source de nourriture. On est capable de dégrader les produits les plus simples, mais il y a des nouvelles molécules qui arrivent, des dioxines, des PFAS, des choses avec des noms très exotiques qui sont plus compliquées à dégrader. Chez nous, ce sont des sujets de recherche.
Un document de la radio-télévision suisse en juillet dernier avec Gilles Burban qui est président de la société IFEN, dossier champignons. Donc cet après-midi avec nos invités, les chercheurs Claire Chenu et Lionel Rangard. Donc on pourrait utiliser effectivement ces champignons pour dépolluer, c'est ce que vous disiez
tout à l'heure,
Claire
Chenu. Dépolluer, en particulier pour dégrader des composés organiques. Et par rapport aux bactéries, ils sont plutôt plus performants pour dégrader les grosses molécules aromatiques.
Mais on arrive déjà à le faire à grande échelle, ça ou pas? Ou ça reste quand même de l'expérimentation scientifique?
Alors déjà, les champignons de nos sols le font.
Naturellement. Oui.
Notamment
mais là,
les pesticides,
si on parle de décontaminer...
Alors, on le fait, ça se fait sur un certain nombre de sites, d'encourager, de faciliter la croissance des champignons, voire d'inoculer, d'apporter les champignons. C'est pas très, très facile à réussir. Mais oui, ça existe, mais c'est ponctuel. Hein, dans ces cas-là, c'est quelques centaines de mètres carrés, c'est quelques hectares.
Yolaine Rangard.
Oui, il y a de nombreuses sociétés de dépollution des sols ou de l'environnement qui utilisent des mélanges microbiens, bactéries, champignons pour justement utiliser leur capacité enzymatique à dégrader des produits produits d'hydrocarbures, pétroliers, pesticides, des transformer des métaux lourds ou même les extraire de certains sols, avec plus ou moins d'efficacité aussi, hein, parce que ça marche toujours très bien en conditions contrôlées, puis quand on est au terrain, un peu trop sec, un peu trop froid, pas toujours la bonne biodiversité, donc on met des inoculums qui ne s'adaptent pas toujours bien aussi au type de sol.
Les champignons sont très sensibles à leur environnement immédiat, climatique,
comme tous, les organismes.
Comme ni plus ni moins.
Donc quand on apporte, quand on inocule un organisme, que ce soit une bactérie ou un champignon, déjà les conditions peuvent ne pas lui convenir. Et puis il y a des compétiteurs, il y a des prédateurs. Voilà, c'est pas, la vie n'est pas rose pour quelqu'un qui, forcément qui arrive dans un milieu nouveau.
Alors justement, on a Denis sur franceinter.fr qui nous écrit au sujet de Marc-André Sellos, qu'on entendait tout à l'heure et qui était dans l'émission il y a quelques semaines. Il l'a entendu dire dans l'émission qu'il valait mieux traiter le sol au glyphosate plutôt que de le labourer. Il voudrait savoir ce que vous en pensez, Claire Chenu et Lionel Rangard. Claire Chenu.
Je pense que tous les deux ont des effets. Alors sur les champignons, il est vrai que les champignons sont particulièrement sensibles à la perturbation de leur milieu. Et d'ailleurs, des sols non labourés, il y a une plus grande abondance de champignons par rapport aux bactéries que dans des sols labourés régulièrement. Maintenant, moi...
Versus glyphosate hein.
Versus glyphosate, c'est difficile à évaluer doses équivalentes. Il y a un facteur en tout cas qui compte énormément, c'est que tous ces organismes, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de carbone, de ressources carbonées. Et donc un sol, en étudiant des essais de longue durée, on s'est aperçu que dans la hiérarchie, un des facteurs qui intervenait le plus, c'était l'approvisionnement en ressources carbonées.
Et donc,
ils sont moins sensibles au glyphosate, ils sont moins sensibles au labour si le sol est riche en matière organique.
Lionel Rangard, vous essayez une réponse aussi là-dessus?
Je vais donner une réponse agroécologique, c'est-à-dire que ces deux pratiques, elles sont généralement faites pour désherber, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus le glyphosate, on utilise un peu le travail du sol pour enlever ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou les adventices maintenant. C'est ça un des principaux problèmes de l'agriculture sur la qualité des sols, c'est de ne pas avoir un couvert végétal permanent et diversifié. Et donc, moi je dirais aucun des deux. C'est vrai que le travail du sol casse les maisons des champignons. Le glyphosate est un biocide qui va les empoisonner. Donc bon,
c'est ce que disait Marc-André Sellos. Hein. Il disait de toute façon ne préférer ni l'un ni l'autre. Hein,
alors voilà. Aucun n'est souhaitable.
C'est ça. Améliorer la couverture végétale, si possible. Bien sûr, après il y a des notions de compétition hydrique, de choses comme ça, mais diversifier et mettez un couvert permanent et pérenne, bien sûr, avec des plantes cultivées ou des plantes de service.
Alors pourquoi justement un couvert? Qu'est-ce que ça produit comme effet alors?
Parce que la vie au-dessus stimule la vie du dessous et inversement, si pas de vie en dessous, la vie du dessus ne s'implantera pas. Donc, si on veut aussi une diversité végétale, il va y avoir une diversité d'organismes et de micro-organismes dans le sol. Donc, c'est une interrelation écologique. C'est gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Claire, on a des effets barrières aussi au niveau du sol qui marchent pour les pathogènes de plantes, d'animaux qui peuvent poser des problèmes au niveau de l'agriculture. Mmh. Et on sous-estime les bienfaits de cette biodiversité du sol, notamment microbienne, pour gérer des problématiques de protection des cultures, de fertilité, on en est tous conscients et convaincus. Mais aussi, protection des cultures, c'est des choses aussi qu'il faut identifier.
Et cette diversité, ces couverts végétaux, cette diversité végétale au-dessus du sol, elle fait de la photosynthèse, donc elle capte du carbone, elle pompe du carbone de l'atmosphère qui va être ensuite stocké dans le sol. Et puis, elle protège le sol de l'érosion. Ouais. Donc on a vraiment des bénéfices multiples.
Alors, le stockage du carbone, parlons-en, le fameux puits de carbone, donc le sol, quelle est sa part précisément de stockage? Vous parlez de stockage,
c'est ça? Oui, il y a trois fois plus de carbone dans les sols du monde qu'il n'y en a dans l'atmosphère. Donc un réservoir trois fois plus gros. Donc une petite diminution, alors je vais reprendre un chiffre qui a été assez médiatisé, si les sols du monde perdaient 0,4% de leur carbone annuellement, on doublerait le flux net de carbone de notre planète vers l'atmosphère. On doublerait l'effet de serre. Si inversement, on pouvait augmenter les stocks de carbone des sols du monde de 0,4% par an, ou 4 pour 1000,
on diviserait par deux.
On supprimerait.
Ah, on supprime, oui,
carrément. Alors, en fait, c'est très ambitieux. Ça paraît une toute petite valeur, hein, 0,4%. En fait, ce serait très difficile. Mais c'est pour dire qu'une petite variation des stocks de carbone sur le monde peut aggraver sérieusement ou améliorer.
Et donc, ça dépend des pratiques.
Ça dépend des pratiques.
Et la façon dont nous traitons nos sols.
Tout à fait. Hein.
Donc, sur l'agriculture, par exemple, certaines pratiques favorisent ou non, ont des effets délétères ou pas, sur justement le stockage du carbone.
Tout à fait. Il y a des pratiques qui ont des effets positifs sur le stockage de carbone. Bah, couvrir le sol, que ce soit entre des rangs de vignes ou entre deux cultures, les plantes d'interculture, allonger la durée des prairies temporaires, l'agroforesterie, par exemple. Et puis, il y a une chose qui est...
Le labour, par exemple, alors
Le labour, sous nos climat tempéré, en fait, n'a pas un effet aussi grand qu'on ne le pensait auparavant. Mais labour est associé avec sol nu, et donc on fait moins de photosynthèse. Voilà, c'est couvrir le sol et ne pas trop le perturber.
Mais qu'est-ce qui fait alors que le sol va relâcher du carbone, précisément, comme pratique ?
Ben justement, quand vous faites un labour, vous allez aérer le sol, amener de l'oxygène à des endroits où il n'y en a pas trop, redynamiser les micro-organismes que sont les bactéries et champignons, qui vont manger la matière organique et la minéraliser et déstocker.
Donc ça relargue, en fait, on pourrait présenter les choses comme ça. Le fait de labourer, ça relargue ce carbone qui est stocké.
Tout à fait, on remet de l'oxygène dans des couches où il y en a un petit peu moins, les micro-organismes sont revivifiés.
À n'importe quelle profondeur, hein, parce que tout à l'heure, vous parliez des...
0,30 cm, donc c'est là où il y a le maximum de micro-organismes, il y en a en dessous, mais le gros de l'abondance et de la diversité des micro-organismes, il est dans la couche superficielle entre 20 et 30 cm.
Donc c'est là où vous faites les échantillons dont vous parliez tout à l'heure.
C'est là où on fait les échantillons du RMQS.
Et c'est là qu'il faut absolument faire en sorte de préserver la qualité des sols et sa diversité.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a les effets les plus délétères, en fait, pour le carbone, mais aussi pour la diversité et les fonctions des sols de manière générale ? Ce sont les changements d'usage, c'est la déforestation, c'est le retournement des prairies temporaires et c'est l'artificialisation et l'imperméabilisation.
On apprend plein de choses dans cet atlas français des champignons du sol, Lionel Rangard, que l'humanité d'abord a toujours été attirée par les champignons pour leurs différentes propriétés, qu'elles soient comestibles, médicinales, parfois même hallucinogènes. Alors moi j'ai découvert un truc, on a la preuve d'une consommation de champignons hallucinogènes en 3500 avant Jésus-Christ, c'est vrai ça ?
On savait vivre à cette époque.
Vrai,
donc on commençait déjà...
Oui, il y a des traces de champignons hallucinogènes à côté des restes d'un homme préhistorique.
Néandertal mettait déjà des champignons dans ses repas.
On a l'impression. Oui.
Apparemment, il y avait déjà des boissons fermentées 7000 ans avant Jésus-Christ.
Tout à fait.
Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un intérêt pour les champignons.
Bien sûr. Après, le côté d'abord.
Quelle que soit leur utilisation.
Plutôt alimentaire et après médicinal et puis industriel. On sait bien le faire.
Allez, on va continuer ce dossier ensemble sur la préservation de nos sols et de nos champignons. Et puis on continue dans le sujet tout de suite avec Camille Passauvert.
France Inter. La Terre au carré.
Et il est 2h30, Camille Cronier.
Avec une première aujourd'hui, la toute première liste rouge des espèces menacées de champignons en France, France métropolitaine, publiée ce matin par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec aussi l'OFB et le Muséum national d'histoire naturelle. Et oui, ça n'avait jamais été fait. Faut dire qu'on a un peu l'impression que, au-delà de certains intérêts, disons, humains, on a un peu tendance à s'en cogner des champignons, au grand regret d'Hervé Cochard, président de la Société mycologique de France.
Lorsqu'on parle de champignons, la première chose qui vient à l'esprit, c'est est-ce que ça se mange ou est-ce que ça se mange pas, est-ce que c'est toxique ? Et donc on oublie qu'il y a des milliers et des milliers d'espèces, que ce sont des organismes comme les autres, qui ont donc leur importance dans l'écosystème.
Et eux aussi sont menacés. L'étude s'est concentrée sur des champignons à chapeau. Trois groupes au total, les bolets, les lactaires et les tricholomes. 319 espèces observées. Résultat, 12 sont en danger et 16 autres quasi menacées. Florian Kirchner du comité français de l'UICN.
Alors pour les connaisseurs, on a le lactaire des saules réticulés qui est menacé. Le bolet de plomb et le bolet rubis, eux, ils sont classés en danger. On a un bolet rose pastel et puis un lactaire mamelonné des tourbières qui, eux, sont vulnérables.
Des noms qui ne vous disent peut-être rien parce que...
La plupart de ceux qui sont consommés ne sont pas menacés.
Voilà, c'est dit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit être indifférent à la situation. Hervé Cochard rappelle l'importance du règne fongique.
Ah oui, complètement. Hein. Sans champignons, on n'aurait pas de forêt, on n'aurait pas de prairies, on aurait des monceaux de bois accumulés dans les forêts parce qu'ils ont leur rôle pour la biodégradation du bois mort, pour nourrir les arbres via l'effet des mycorhizes. Mais c'est vrai qu'il faut constater qu'on les connaît beaucoup moins que d'autres organismes.
Alors, qu'est-ce qui explique que certaines espèces soient menacées ?
C'est beaucoup les menaces justement qui pèsent sur les forêts. Alors, la sylviculture intensive, par exemple l'abattage des vieux arbres ou les coupes rases, sont des menaces importantes. Parfois, la conversion de certaines forêts, quand on convertit des forêts de chênes en forêts de pins, par exemple, dans plantations de pins, ça fait disparaître tous les champignons liés aux chênes. Et puis, ce qu'on observe aussi pour ces espèces particulières, c'est les impacts croissants du changement climatique. Les champignons ont besoin, pour beaucoup d'entre eux, des conditions d'humidité. Et malheureusement, le changement climatique crée un assèchement qui est préjudiciable à ces espèces, réduit les périodes de pluviométrie, du coup réduit les durées de reproduction des champignons. Donc ils ont moins de temps pour se reproduire dans l'année. Et parfois même, pour les champignons forestiers, l'augmentation de la fréquence des tempêtes ou des incendies menacent les espèces.
Sans parler de l'agriculture, avec les drainages des zones humides, l'utilisation de fongicides et même le pâturage intensif en prairie. Alors vous vous dites peut-être depuis tout à l'heure, 12 plus 16, ça fait donc 28 espèces menacées sur 319 étudiées. En fait, c'est pas énorme, donc ça va. Mais Florian Kirchner précise un élément de taille.
À ce jour, un quart des champignons n'a pas pu être évalué. C'est-à-dire que pour 25% des espèces, on n'a pas assez d'informations. On ne sait pas suffisamment où ils sont présents, à quel niveau d'effectifs ils sont présents ou quelles sont leurs tendances d'évolution. Et par manque d'informations, malheureusement, ces champignons ont été mis dans une catégorie qu'on appelle données insuffisantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces champignons non évalués, il y a probablement beaucoup d'espèces menacées.
Voilà, des inconnus dans les 319, en sachant qu'il y a plus de 25 000 espèces en France, mais il y a un gros manque de bras, souligné par Hervé Cochard.
Il y a très peu de mycologues, il n'y a plus de mycologues professionnels, ils se comptent sur les doigts d'une main maintenant en France. Il y a pratiquement plus de formation aussi diplômante en mycologie.
Et lui, qui est par ailleurs directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste des arbres, ne voit pas ce faible pourcentage en l'état d'espèces de champignons menacées d'un bon œil.
Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir une vision un peu pessimiste, sachant que les écosystèmes sont très fortement impactés par le changement climatique. Donc ça, c'est mon travail en tant que chercheur. Je regarde sur l'effet du changement climatique sur la physiologie des arbres et la mortalité des arbres. On voit actuellement que les écosystèmes forestiers sont très fortement dégradés. Il y a beaucoup de mortalité. Les microclimats forestiers sont en train de se modifier aussi fortement. Il y a des travaux qui montrent que la température du sol augmente au fil des années, parce qu'il y a plus de lumière qui arrive au niveau du sol, du fait que les arbres ont moins de feuilles globalement. Et donc ça va modifier complètement le fonctionnement des micro-organismes du sol, dont les champignons. Et donc je suis pas sûr qu'il faille se réjouir qu'il n'y en ait que 2 ou 3% qui sont classés dans liste rouge. Plutôt s'inquiéter du fait qu'on ne soit pas capable d'en classifier plus que ça par manque de connaissances ou par manque de moyens.
En sachant aussi qu'aucun programme de protection ou de conservation n'existe aujourd'hui en France spécifiquement pour les champignons.
Le but de la liste rouge, c'est de faire progresser les connaissances sur ces espèces pour identifier celles qui sont menacées et enfin déclencher des programmes de conservation. Parce que comme il y a des animaux ou des plantes menacées, il y a aussi des champignons menacés qui méritent tout autant des efforts pour les préserver.
Voilà, protégeons les champignons. Champignons aux six jolis noms. Alors, je vous en donne quelques autres sur la liste. Tricholome équestre des chênes, lactaire charmant, bolet couleur de lion, lactaire tranquille, lactaire chagriné, bolet à odeur d'iode, tricholome à odeur de savon, et enfin, je suis sûre que ça va vous plaire, Mathieu, le tricholome à odeur suave.
Mmh, c'est tout moi, ça. Merci beaucoup, Camille Cronier. C'est à réécouter sur franceinter.fr.
Dans toutes les raisons, dans tout ce qui a été dit, vous voyez acquiescer beaucoup pendant la chronique.
Oui. C'était...
Vous preniez connaissance de l'étude.
Oui, je prenais connaissance de l'étude. Ça m'inspirait deux choses, c'est que j'ai pensé à tous les autres champignons, ceux qui ne sont pas des champignons à chapeau. Voilà, parce que j'imagine, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient plus protégés. Enfin, ils sont également en danger. Et puis, je pensais à l'importance de ces sociétés savantes qui rassemblent professionnels et amateurs. On en dépend énormément pour tout ce qui est suivi de l'état de la nature. C'est vraiment important.
Ils n'ont pas beaucoup de moyens aussi.
De moyens. Lionel est très investi dans la science dite participative. Je pensais à ça. Voilà, l'important, c'est les sociétés savantes.
Citer la Société mycologique de France qui fait un travail énorme et qui est d'ailleurs pour partie impliquée dans cet atlas.
Mais qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette liste?
Ça m'inspire que 10% des espèces connues déjà menacées, c'est énorme pour moi. 10%, c'est quand même pas négligeable. Et puis quand on cite de 329 espèces, 25 000...
319,
25 000 décrites en France. Nous, on en trouve 136 000 par nos outils moléculaires en France. C'est-à-dire qu'il y a toute une diversité inconnue et sûrement une diversité en danger. Et peut-être que ce chiffre de 10%, comme on a revisité le chiffre de biodiversité dans les sols, peut être beaucoup plus important.
Là, c'est même pas 10%, c'est 3-4% dans le résultat.
Il est sûrement beaucoup
plus élevé.
Très supérieur par rapport à toutes les menaces qui peuvent peser sur les champignons.
Il y a quand même des initiatives, il y a une directive européenne là, qui est en train d'être discutée pour protéger les sols. On en parlera avec vous dans un instant et on poursuit notre dossier consacré aux champignons microscopiques.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse. les gens autant que ceux qui m'ont touché. Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce? Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment?
C'est son dernier album La Grâce, en extrait Alain Chamfort.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
La surface de la Terre, cette couche superficielle d'où naquirent les forêts primitives et les prairies, a toujours été une source de vie pour l'homme. Pour le sol, il aura versé plus de sang et dépensé plus d'efforts que pour l'or ou les diamants. De nos jours, il n'y a plus de terre vierge à exploiter. Un peu partout, l'homme a laissé son empreinte. Dans son avidité, il n'a pas ménagé sa terre. Des collines que le colon avait imprudemment dépouillées de leur gazon ou de leurs arbres ont perdu leur fertilité. L'eau, peu à peu, a emporté la couche supérieure du sol et ce qu'il en reste ne permet plus une récolte. Que faire de cette terre appauvrie, ravinée?
Voilà cette archive de l'INA en 1949. Les humains qui n'ont pas ménagé la Terre, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça s'est pas du tout amélioré depuis cette archive donc de 49. Pour parler des sols et des champignons microscopiques en particulier, nous sommes avec Claire Chenu et Lionel Rangard cet après-midi. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, cette archive, Claire Chenu?
Il parlait beaucoup d'érosion, et figurez-vous qu'aujourd'hui, la plus grande menace sur les sols à l'échelle mondiale, c'est toujours l'érosion, à l'échelle européenne également.
C'est quoi d'ailleurs l'érosion alors?
C'est la pluie,
c'est le lessivage,
le vent,
c'est quoi? C'est
les particules de sol plus bas dans le paysage, donc jusque en bas du champ, mais dans la rivière aussi, dans le lac, jusque
donc
dans la mer.
Donc c'est tout ce qui fait bouger au fond cet écosystème sol, quoi.
Voilà,
et qui l'entraîne ailleurs.
Et qui entraîne ailleurs donc toute la fertilité de ce matériau.
Pendant que nous écoutions Alain Chamfort, nous avions une discussion que nous allons partager avec vous, parce qu'elle nous a beaucoup animés, suite à une question de Camille d'ailleurs,
voilà,
sur le jardinage et le labourage.
Je culpabilisais un peu après vous avoir entendu, parce que quand j'essaye de planter des radis ou des salades ou n'importe quoi, je prends mon petit râteau dans mon petit potager et je retourne la terre gentiment en me disant comme ça j'aère, ça fait du bien. Et donc, à vous entendre, en fait, je ne fais pas du tout ce qu'il faut. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une croûte par-dessus, donc il faut que j'aère pour que la sol soit plus...
C'est une agression mécanique du sol, donc il va casser sa structure, ses agrégats. Les agrégats sont les habitats des champignons, des bactéries quand c'est des micro-agrégats, et donc ça risque d'avoir un effet très délétère sur la biologie de votre système.
Donc on touche pas, en fait.
Et donc sur l'auto-fertilité du système, le but, c'est de moins perturber physiquement le sol, que ce soit en agriculture ou en jardinage. Et d'ailleurs, c'est un peu le paradoxe au niveau des jardiniers amateurs, c'est qu'on est toujours en train de travailler, de retourner, de motoculter le sol, et c'est une agression très très forte.
Mais vous nous dites quoi, qu'il faut arrêter de jardiner ?
Je dis qu'il faut réduire, comme on dit aux agriculteurs. Non, il faut pas. On dit pas aux agriculteurs qu'il faut arrêter l'agriculture. On leur dit qu'il faut peut-être limiter cette agression mécanique quand c'est possible, parce qu'il y a aussi des sols qui sont nécessaires à aérer pour qu'il y ait une implantation de la nouvelle culture. Et donc, il faut limiter le travail du sol, comme il faut limiter les pesticides aussi par rapport.
Vous me disiez, Claire Chenu, qu'il faut mettre un paillage en fait.
Vous m'avez dit qu'il y avait une croûte qui se formait. La croûte, c'est en fait, ce sont les agrégats du sol qui se sont désagrégés sous l'influence de la pluie, parce qu'ils étaient exposés à la pluie. Si vous avez un paillis qui couvre le sol, vous n'aurez plus de cette formation.
Donc j'enlève le paillis,
le sol va mieux garder l'humidité.
Et hop, je plante.
Si vous avez une croûte, c'est une agression mécanique, c'est une croûte de battance, ce qu'on voit des fois dans les champs agricoles. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est l'érosion, quand le système est en pente avec des fortes pluies. Donc on a une perte physique du sol.
Mais si on veut éviter justement que le carbone stocké soit relargué, qu'est-ce qu'il faut faire là?
Il faut limiter les perturbations et puis faire rentrer plus de carbone dans le sol, avec une couverture végétale permanente.
Dans cet atlas français des champignons du sol, vous nous parlez donc de tous ces travaux que vous avez faits en prélevant donc des échantillons de sol. Qu'est-ce que ça nous raconte justement du territoire? Est-ce qu'il y a des types de sols où on voit plus ou moins de diversité des champignons? Qu'est-ce que ça nous donne comme indication alors?
Alors c'est vrai que le premier paramètre environnemental qui va gérer la diversité, la composition et l'abondance des champignons, ça va être le type de sol. Donc sa physico-chimie, sa pédologie. Et en France, on a la chance d'avoir plus d'une trentaine de types de sols différents. Donc on a une grande hétérogénéité à l'échelle nationale qui fait une grande diversité, notamment de champignons dans les sols. Donc quand on regarde les cartes de France, on voit des zones qui sont plus ou moins riches.
Alors il y a les forêts, il y a les vignes, qu'est-ce que ça nous dit tout ça?
Il y a le mode d'usage, il y a le climat qui joue aussi comme paramètre environnemental. Donc en fait, les cartographies montrent qu'il y a une grande hétérogénéité à l'échelle de la France, avec des zones pauvres naturellement, des zones riches naturellement.
Lesquelles par exemple? Vous avez des...
Alors quand on regarde la carte de France de façon très globale, on voit que généralement le nord-ouest, tout le massif armoricain est assez riche en termes de champignons. Ça va jusqu'au centre de la France et puis tout ce qui est un petit peu sud-est est un peu plus pauvre par rapport à des sols aussi un peu plus sableux et des climats aussi un peu plus secs. Donc des conditions un peu moins favorables. Quand je parle de diversité, c'est le nombre total d'espèces. C'est pas de la composition, tel type de champignons. Donc on a ces grands paramètres-là.
Mais entre une prairie, par exemple, ou une forêt, ou une vigne, est-ce que là aussi on a beaucoup de diversité dans la présence de ces champignons ou pas?
Alors il y a un certain paradoxe microbien quand on compare les modes d'usage, qui sont aussi très importants sur le niveau de diversité, c'est qu'on a moins de diversité de champignons au niveau du sol et de ce que l'on détecte dans les forêts et les prairies par rapport au système de grande culture.
Ah bon?
Parce que
donc, j'ai bien entendu.
Oui, vous avez bien entendu. Et d'ailleurs, c'est dans l'Atlas, donc je vais pas le démentir.
Pourquoi? Donc moins de diversité dans une forêt où apparemment justement on fout la paix à la nature
parce que
sur un sol entretenu par des agriculteurs.
Et ça s'explique par une loi écologique qui s'appelle la loi de la perturbation intermédiaire, c'est-à-dire que quand un écosystème est moyennement perturbé, pas trop faiblement et pas trop fort, en fait ça crée de la diversité, en fait les organismes réagissent, et par contre s'il est trop perturbé, là on a un processus de sélection, on va perdre des espèces.
Ah quand même, donc il y a un seuil à ne pas dépasser.
Voilà, et ce qu'on voit en France, c'est que quand on passe des prairies-forêts qui sont peu perturbées, donc là on a une diversité équilibrée, qui est relativement stable, mais pas très élevée en comparaison des grandes cultures, où là on met de la perturbation, donc un peu de travail du sol,
des intrants,
moins de diversité végétale, des intrants, pas toujours sympathiques, là on crée une perturbation moyenne, ça excite entre guillemets un peu les micro-organismes, bactéries, champignons, on voit la même chose sur les bactéries, et ils vont réagir en créant de la diversité. Alors cette diversité, est-ce qu'elle est bonne? Ça c'est l'autre question qui est aussi importante, on peut avoir aussi une augmentation de diversité avec des fois des opportunistes. Et quand on passe dans les vignes, où là on a des pratiques encore un peu plus agressives, notamment pour les champignons, parce qu'on met beaucoup d'antifongiques, on travaille aussi beaucoup le sol dans les vignes, parce qu'il y a peu d'enherbement, alors ça dépend des territoires viticoles en France, mais il y a des territoires encore qui enherbent peu et qui font beaucoup de travail du sol parce que justement ils n'utilisent plus de glyphosate. Là on a une perturbation forte et là on a une chute très importante de la diversité des champignons.
D'accord, donc tout ça est à observer vraiment dans les détails, Claire Chenu, même si ça paraît très contre-intuitif ce qu'on vient d'entendre, il y a quand même une limite à ne pas dépasser.
Apparemment, parce que dit oui, ce qu'on observe, et ça a été observé dans d'autres milieux, cette théorie de la perturbation intermédiaire, elle a l'air vérifiée dans d'autres écosystèmes, pas que dans les sols.
Question de Pierre, enfin réaction à ce qu'on disait tout à l'heure sur le labour et l'effet de lâcher potentiellement du carbone. L'exploitation agricole aurait donc-t-elle plus d'effets néfastes que l'exploitation pétrolière, hein, Claire Chenu, en termes d'émissions de gaz à effet de serre?
Ah non, les flux de, j'essaie de me rappeler les chiffres en tête, mais les flux venant de l'utilisation de combustibles fossiles est bien plus importante que celles liées, venant des sols liés à l'activité agricole. On a un facteur 10 ou 30.
Bon, il n'y a pas photo, quoi, c'est ce que vous dites.
Il n'y a pas photo.
Mais surtout, l'exploitation agricole a pour velléité de stocker du carbone aussi. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de stockage dans les sols agricoles qui sont un petit peu dépréciés par rapport au système prairie-forêt, qui est une capacité de stockage très importante. Et donc, il faut que ces sols agricoles stockent du carbone pour baisser les flux au niveau de l'atmosphère.
Stocker du carbone, c'est enrichir les sols en matière organique des sols, dont dépend une grande partie de la fertilité des sols, la fourniture de nutriments, la biodiversité, la qualité physique, sa capacité du sol à résister à l'érosion. Et donc, on a tout intérêt à augmenter la teneur en matière organique des sols. Et le co-bénéfice, c'est qu'on stocke du carbone, on contribue à l'atténuation du changement climatique. C'est ça le co-bénéfice.
Tant sur
le
climat. Qu'on est sur l'agriculture, Philippe nous écrit « Ah bon, on s'intéresse de plus en plus au sol et le plan pour l'agriculture qui est en cours, vos invités ne sont-ils pas inquiets ?» Avec ce qu'on qualifie beaucoup de recul, hein, avec la mobilisation du monde agricole et la FNSEA en particulier. Claire Chenu, pas de langue de bois s'il vous plaît.
Oui, inquiet, oui, le recul sur le plan éco-phyto, oui, j'ai trouvé ça absolument consternant, tout à fait. Et l'application en France des... je ne me souviens pas du nom français, mais des éco-schemes, elle est assez triste. Enfin, on manque vraiment d'ambition.
On va pas dans le
La
bon
politique
sens,
agricole
quoi.
Commune telle qu'elle est déclinée en France manque sérieusement d'ambition, à mon avis.
Ambition et connaissance aussi, pour le coup, non?
Et connaissance. Enfin, elle ne s'appuie pas... Si elle s'appuyait sur... Mon point de vue scientifique, c'est si elle s'appuyait sur des connaissances, elle serait bien plus ambitieuse.
Oui, parce que quand on réalise ce que vous nous dites sur l'aspect absolument vital justement de nos sols, on se dirait que c'est la première chose à chérir, hein,
tout à
et
fait.
Justement à protéger au maximum.
Tout à fait. Une difficulté, c'est que protéger les sols, protéger la nature de manière générale, ça, il faut penser des temps moyens, des temps longs. Or, on est tout le temps dans des temps courts.
Lionel Rangard ?
Oui, on peut être inquiet parce qu'il y a un recul sur la notion de transférer la connaissance. Mais moi, je suis assez confiant dans le monde agricole parce que je travaille pas mal en sciences participatives directement avec des groupes d'agriculteurs et de viticulteurs. Et en fait, ils sont très demandeurs de bien connaître la qualité de leur sol et notamment la qualité...
Mais quelle que soit leur pratique, qu'ils soient en monoculture...
On a même des projets où on compare le conventionnel, les bio et on mélange tout ce petit monde ensemble. Et c'est pas du tout clivant dans le monde agricole à partir du moment où on amène des diagnostics robustes et objectifs. Et en fait, ils sont demandeurs de bien connaître la qualité de leur sol et l'impact de leurs pratiques. Et à partir du moment où on leur démontre que certaines pratiques sont néfastes pour leur patrimoine sol, parce que c'est un véritable patrimoine, et donc pour la durabilité de leur système de production, ils sont tout à fait prêts à changer de pratique, et ils ont une réactivité, une agilité, comme on dit, qui est assez immédiate pour changer de pratique, et même des fois de mode de production par rapport à des démonstrations. Mais faut-il être encore capable de démontrer qu'il y a telle agression de telle pratique ou de ce mode de production?
Mais on voit quand même la question des pesticides nous indique plutôt le contraire quand même. C'est-à-dire que dès qu'on peut avoir un recul sur des contraintes qui justement protégeraient la biodiversité, on voit quand même qu'il y a une partie du monde paysan qui est
bien sûr
favorable à ces reculs-là.
Il faut mettre le curseur au milieu entre des impasses techniques aussi. Quand il n'y a plus de pesticides, certains pesticides, les maladies se déploient et on ne sait pas faire sans les pesticides. Donc il y a des impasses techniques. Et puis c'est une histoire de curseur en fait.
Mais il n'y a pas quand même aussi, là vous parlez de cas presque particulier d'individus, c'est pas d'ailleurs les individus, c'est la politique en fait qui est mise en place, c'est le système qui est problématique et qui est dénoncé par beaucoup.
Et pourtant en parallèle on voit des politiques notamment au niveau du Sénat et de l'Assemblée qui sont en train de réfléchir à des lois nationales sur la protection de la santé et de la biodiversité des sols. Il y a une loi qui a été proposée par le Sénat mi-février, alors c'était en pleine manifestation agricole, donc elle n'est pas passée et puis elle était sûrement perfectible, mais je pense que maintenant on a une dynamique réglementaire sur la qualité et santé des sols qui va être lancé en parallèle de la directive européenne et en coordination avec la directive européenne sur ce sujet-là.
On va en parler dans un instant, on pourra dire un petit mot pour voir en quoi ça peut intéresser les agriculteurs précisément et en quoi ça peut protéger les sols en même temps.
Journée triste.
et France Gall sur France Inter. Nos invités spécialistes du sol, Lionel Rangeard et Claire Chenu, à l'occasion de la sortie de cet atlas français, Les champignons du sol. C'est aux éditions Biotope avec le Muséum national d'histoire naturelle. Claire Chenu, dans l'actualité, une directive européenne relative à la surveillance et à la résilience des sols. Vous êtes impliquée dans ce projet de loi? Vous avez été consultée en tout cas?
Alors oui, j'ai été consultée à différentes reprises et puis je dirige un programme européen de recherche sur la gestion des sols agricoles et nous avons été fortement et nous sommes fortement mobilisés en appui à la loi, en préparation à la loi et maintenant en appui à l'élaboration de la version définitive de la loi.
Qui doit être examinée donc au Parlement européen les 11 et 16 avril. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi pour protéger les sols?
Ce qu'elle nous dit pour protéger les sols, déjà, c'est que pour protéger quelque chose, il faut le connaître. Et donc, cette loi propose de mettre en place de manière systématique dans tous les pays européens des systèmes de surveillance de la qualité des sols, de la santé des sols, avec des prélèvements tous les 6 ans, sans doute vers 6 ans, un peu à l'image de ce qui existe en France. Ouais. Justement, un des enjeux, c'est puisque plusieurs pays, ça c'est une chose que nous avons analysée, inventoriée dans notre programme, plusieurs pays ont des réseaux de surveillance déjà de la qualité de leur sol, 19 pays en ont, très différents. La France en effet un des plus, peut-être sophistiqués, un des plus élaborés.
Mais c'est pas homogène en tout cas.
Mais c'est pas homogène, voilà. Ouais. Et l'enjeu c'est d'arriver à incorporer tout ça dans une trame commune, de façon à ne pas perdre ce qui a été fait.
Dans un contexte européen où 60% des sols européens ne sont pas sains, et d'après les données scientifiques, leur état ne fait que s'aggraver, 60%.
Caroline, je voudrais savoir si l'impact des champignons sur la dégradation des microplastiques a été déjà étudié. Lionel Rangeard, est-ce que vous savez ça?
Non, j'ai pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et plus largement, la problématique des microplastiques dans l'environnement et notamment dans le sol, c'est encore une problématique assez orpheline. On est pas mal démarché sur ce sujet-là et il faut que les appels d'offres commencent à prendre aussi, parce qu'on travaille sous forme d'appels d'offres pour avoir des sous pour travailler et mener des recherches. Donc et on s'inquiète beaucoup sur le devenir de ces micro-nanoplastiques, notamment par rapport à des notions de biodiversité, de toxicité et puis de rémanence dans l'environnement.
Il y a de quoi faire, Oui, sur les substances inquiétantes.
Ah oui, il y a de quoi faire. Il y a les microplastiques et il y a aussi tous les médicaments, tous les médicaments, hormones, qui se retrouvent dans les eaux, dans les sols.
Et les polluants éternels dont on parle beaucoup là, il y a la loi demain.
Perfluorés, c'est aussi des. On se rend compte de leur toxicité, de leur rémanence. Par contre, en termes d'écotoxicité, alors sur l'homme, on sait un petit peu ce que ça fait, mais sur l'environnement et notamment sur la biodiversité du sol, c'est encore des choses qu'il faut qu'on commence à investiguer.
Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas étudié encore aujourd'hui, Claire Chenu.
Non, ça n'est pas étudié. Les microplastiques, ça fait quelques années. Là, effectivement, il y a quelques projets de recherche au niveau français et international, mais c'est relativement récent. Ça fait 5 ans, quoi, qu'on s'intéresse aux microplastiques.
Il faut que la société s'en empare.
Les PFAS, ça démarre tout juste. Non, les médicaments, j'ai envie de dire, ça fait plus longtemps. Médicaments dans les sols, résidus de médicaments dans les sols. Non, la communauté scientifique essaie de suivre, mais c'est aussi, comme dit Lionel, à chaque fois, il faut qu'il y ait des moyens de financement qu'on se mette et puis il faut apprendre. Par exemple, les méthodes de dosage de ces molécules sont des véritables défis. Et comment quantifier les microplastiques, c'est pas évident du tout. Donc la première phase de recherche, c'est comment comment les quantifier dans les sols.
Dernière question. Catherine voudrait savoir si un champignon vénéneux comme l'amanite phalloïde peut contaminer un champignon comestible qui se trouverait à proximité via leur mycélium entremêlé.
Amusez-vous, vous avez 30 secondes pour y répondre en plus.
Avec toute humilité, je n'en sais rien.
Donc vous goûtez en touche. Bon, ils réfléchissent en direct.
Non, mais un champignon vénéneux, est-ce qu'il n'y a que le carpophore qui est vénéneux ou les mycéliums aussi? Je ne sais pas.
Enfin,
les spores,
c'est
les spores.
Eh bien, réfléchissez-y, puis on refera une émission sur le sujet pour répondre à cette question. Merci en tout cas à tous les deux. Paraît donc cet atlas français des champignons du sol, avec nombreux confrères à vous. Lionel Rangeard, c'est aux éditions Biotope. Merci beaucoup d'être venu en parler.